إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on a vu jusqu'à maintenant dans cette série un certain nombre d'adorations qui font partie des provisions les plus utiles à l'adorateur, comme la prière, les ablutions, les zakats, le jeûne, et nous avons vu notamment les mérites de ces œuvres. Toutefois, il est important de savoir qu'il convient à l'adorateur de ne pas seulement chercher à multiplier les actes d'adoration. Mais le plus important, et la chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est que tu veilles à ce que ton adoration soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, en remplissant les conditions de ces adorations, ainsi que leurs piliers et leurs obligations. Donc l'objectif de l'adorateur, c'est de chercher à ce que son œuvre soit la meilleure des œuvres. Et la meilleure des œuvres, c'est celle qui est pieuse, qui est sincère pour Allah et conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 2 de Surat al-Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Il est venu des paroles de certains salafs, de le tafsir de ce verset, dont le sens est que la meilleure œuvre est celle qui est la plus sincère et la plus conforme. Car si l'œuvre est sincère, mais qu'elle n'est pas conforme, elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle est conforme, mais qu'elle n'est pas sincère, alors aussi elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'œuvre qui est sincère, c'est celle qui est pour Allah. Et l'œuvre qui est conforme, c'est celle qui est sur la sunnah. Telle est la meilleure des œuvres, l'œuvre pieuse, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée de nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'aide à l'adorer de la meilleure manière. Parmi ses invocations, il y a le fait qu'il disait « Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. » Ô Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure manière. Et il enseignait cette invocation à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Un jour, il prit Mu'adh, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhum, il le prit par la main et lui dit « Ô Mu'adh, Wallahi inni uhibbuk. Par Allah, je t'aime. Et je te recommande, Mu'adh, de ne pas délaisser le fait de dire à la fin de chaque prière, c'est-à-dire après le teshahoud, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la recherche de refuge contre les quatre, de faire cette invocation qui fait partie des invocations qui sont légiférées avant les salutations. Allahumma inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure manière. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit au sujet de l'œuvre pieuse qu'elle est celle dépourvue d'ostentation et qui est restreinte à la sunnah. Et il faisait partie des invocations de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qu'il disait « Ô Allah, fais que mon œuvre tout entière soit pieuse, rends-la sincère pour ton visage et ne laisse rien de celle-ci pour autre que toi. » Donc pour être accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ton œuvre doit impérativement remplir ces deux conditions. Elle doit être conforme à la sunnah, c'est-à-dire que toute œuvre qui s'oppose à la sunnah, qui n'a pas été légiférée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans son temps, dans sa manière, et ainsi de suite, alors celle-ci n'est pas pieuse et elle est vaine. Et on a déjà donné dans les cours précédents quelques récits nous démontrant l'importance de respecter cette condition pour que l'œuvre soit pieuse et qu'elle soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition d'acceptation des œuvres est la sincérité. C'est-à-dire que tu accomplisses ton œuvre exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela dans de nombreux versets dans le Coran. Et c'est sur cette sincérité que sont basées l'ensemble des paroles et des actes en termes d'acceptation ou de rejet. Si tes œuvres sont sincères et conformes, elles seront acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si elles ne sont pas sincères, même si elles sont conformes, alors elles seront rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc indispensable pour nous que l'on donne de l'importance à ce sujet. Car tous nos actes et toutes nos paroles doivent impérativement être purifiés de tout ce qui pourrait les corrompre, de tout ce qui pourrait les invalider et de tout ce qui pourrait en diminuer la récompense. Et parmi ces choses qui corrompent les œuvres, il y a le polythéisme mineur, qui est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait le plus pour sa communauté et qu'il a désigné comme étant l'ostentation. Comme il est venu dans le hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La chose que je crains le plus pour ma communauté est le polythéisme mineur, l'association mineure. » Il a alors été interrogé à ce sujet et il a dit « C'est l'ostentation. » Et c'est pour cela que certains ont défini al-ikhlas, que l'on traduit ici par la sincérité, comme étant le délaissement de l'ostentation dans les œuvres. C'est ça la sincérité, que tu voues ton œuvre exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons donc parler dans ces assises, Inch'Allah ta'ala, de ce vice et ce défaut qui est l'ostentation, qui représente un grand danger pour l'adorateur, car elle peut annuler tes œuvres ou alors en diminuer leur récompense. Et on va voir, Inch'Allah ta'ala, plusieurs questions à ce sujet, bi'idhnillah ta'ala. Il se peut que l'assise d'aujourd'hui ne suffise pas et on continuera alors dans l'assise de demain. La première question est, qu'est-ce que l'ostentation et quelles sont ses catégories? L'ostentation, en arabe, al-riya, désigne le fait d'accomplir une chose afin que les gens la voient. C'est-à-dire que c'est le fait de montrer une œuvre aux gens pour qu'ils la voient et pensent du bien de son auteur. Et dans la législation, c'est-à-dire religieusement, sa définition est plus précise que cela. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a défini l'ostentation en disant « C'est le fait de montrer l'adoration dans le but que les gens la voient et qu'il fasse alors les éloges de son auteur. » Je répète la définition. C'est le fait de montrer l'adoration dans le but que les gens la voient et qu'il fasse alors les éloges de son auteur. Et on va expliquer cette définition, Inch'Allah ta'ala. Tout d'abord, il dit c'est le fait de montrer l'adoration. Il a précisé l'adoration car les œuvres ordinaires ne sont pas concernées par l'ostentation. Mais l'ostentation concerne les actes d'adoration. Ensuite, il dit dans le but que les gens la voient. Car l'adoration, elle peut être liée aux actes, comme la prière, l'aumône, le pèlerinage, mais elle peut être aussi liée aux paroles, telles que la lecture du Coran, le rappel d'Allah, le commandement du bien, l'interdiction du mal, ainsi de suite. Et ce qui est touché par Riya, c'est l'adoration par les actes. Et si une personne accomplit une adoration par les paroles, en recherchant les éloges des gens, en cherchant à ce que les gens l'entendent, pour qu'ils la complimentent, alors en arabe, ceci s'appelle sum'a. En arabe, il y a riya qui est lié à la vue, et il y a sum'a qui est lié à l'ouïe. Et ces deux termes, on les traduit en français par l'ostentation. Ibn Hajar a dit, rahimahullah, au sujet de sum'a, elle est telle riya. C'est la même chose qu'arriya, sauf qu'elle est liée à l'ouïe, alors qu'arriya est liée à la vue. Enfin, il a dit que l'objectif de se faire voir, cette adoration, est qu'il fasse alors l'éloge de son auteur. Et ceci est une précision importante. En effet, car il est possible qu'une personne accomplisse une adoration publiquement en cherchant à ce que les gens la voient, mais son but n'est pas de rechercher leurs éloges. Mais son but est par exemple de leur enseigner cet acte, comme le fait que tu accomplisses une prière devant les gens pour leur enseigner la manière de prier. Ceci n'est pas de l'ostentation. Et il n'y a pas de mal en cela, car c'est une œuvre légiférée et bonne auprès d'Allah, Inch'Allah ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, le connaisseur ne montre pas ses œuvres aux créatures en recherchant un rang dans leur cœur. Il ne montre ses œuvres que par conseil, orientation et enseignement afin qu'on le prenne pour modèle. Il appelle donc à Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres comme par ses paroles. Il profite ainsi de sa science et en fait profiter autrui. C'est le sens d'une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Donc ceci nous montre que si quelqu'un fait une œuvre devant les gens afin d'être pris pour modèle en cela, comme le fait que des parents lisent le Coran devant leurs enfants pour les inciter à en faire de même, ou qu'ils fassent des prières devant eux afin de les inciter à en faire de même, ou alors qu'ils voient comment ils prient et qu'ils prient ainsi d'une meilleure manière et ainsi de suite. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal et ceci ne fait pas partie de l'ostentation. C'est pour ça qu'il a précisé dans la définition que l'objectif de faire voir cette adoration est que les gens fassent alors les éloges de son auteur, de l'auteur de cette adoration. Et ceci exclut également le fait de montrer une adoration afin que les gens la voient dans un but mondain, comme le fait de rechercher par cela de l'argent ou autre. Ceci est une chose blâmable, mais cela ne rentre pas dans l'ostentation et ceci n'est pas le sujet de notre assise. Quant aux catégories de l'ostentation, alors on peut la diviser en différentes catégories, et ce sous différents aspects. Et ici nous allons mentionner deux catégories en fonction de ce qui pousse à faire l'acte. La première catégorie est l'ostentation évidente. Et celle-ci, c'est celle qui pousse à faire l'acte, qui incite la personne à faire cet acte. S'il n'y avait pas l'ostentation, s'il n'y avait pas l'objectif de se faire voir par les gens et d'obtenir leurs éloges, alors il n'aurait pas accompli cet acte. Ceci est donc de l'ostentation évidente. Le deuxième type d'ostentation, la deuxième catégorie, c'est l'ostentation subtile. Celle-ci ne pousse pas à faire l'acte, mais elle va alléger la difficulté de l'acte. Par exemple, c'est le cas d'une personne qui accomplit la prière de nuit quotidiennement, mais cette prière est difficile pour elle. Mais lorsqu'il reçoit un invité, ou alors qu'il sait que quelqu'un l'observe, il a plus d'entrain dans cette prière, et celle-ci est plus facile pour lui. Malgré cela, il a œuvré à la base pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ne recherchait pas la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas prié. Mais il a une forme d'ostentation subtile cachée dans son cœur. Et le signe le plus évident de cette forme d'ostentation est que la personne se réjouisse que les gens aient connaissance de ses œuvres, de ce qu'il accomplit comme adoration. C'est-à-dire qu'il est possible qu'un adorateur soit sincère dans son œuvre, qu'il répugne l'ostentation et qu'il la réprouve. De ce fait, lorsqu'il commence cette adoration, lorsqu'il commence cette œuvre, il n'est pas touché par l'ostentation, ni même durant son accomplissement. Cependant, si les gens ont connaissance de son œuvre, cela le réjouit. Et il se peut même que cela fasse disparaître de son cœur la difficulté qu'il a à accomplir cette adoration. Donc cette joie, cette réjouissance, elle indique cette ostentation subtile. Car si son cœur n'était pas tourné vers les gens, il ne serait pas réjoui du fait qu'ils aient pris connaissance de son œuvre. Et ce sentiment, il peut le pousser et l'amener à faire des choses réprouvables, comme le fait de rechercher à ce que les gens prennent connaissance de son œuvre, en l'accomplissant devant eux, ou alors en faisant allusion à son œuvre, en leur en parlant, ou alors en manifestant de la somnolence ou de la fatigue pour indiquer qu'il a peu dormi, qu'il a beaucoup prié la nuit, et ainsi de suite, parmi les signes nous indiquant la présence de cette ostentation subtile. Donc tout ceci nous montre le danger de l'ostentation, et que ceci n'est pas une chose à prendre à la légère, et que le serviteur doit faire de nombreux efforts afin d'en purifier son cœur. Et il ne faut pas confondre entre l'ostentation, al-riya ou al-sum'a, et ce qu'on appelle en arabe al-ujb, que l'on pourrait traduire par l'autosatisfaction, ou alors l'émerveillement ou la vanité. Al-ujb, cela désigne le fait qu'une personne, elle s'imagine mériter un rang dont elle n'est pas digne. Elle est satisfaite d'elle-même et elle s'enorgueille. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit une parole très profitable à ce sujet. Il dit selon le sens, les gens joignent souvent l'ostentation à la vanité, alors que l'ostentation consiste à associer une créature à Allah. C'est-à-dire que lorsque la personne tombe dans l'ostentation, elle associe une personne à Allah subhanahu wa ta'ala, car elle recherche, à travers son œuvre, l'éloge de cette personne. Alors que la vanité, elle consiste à associer sa propre personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle est la situation de l'orgueil. Ensuite, il dit, rahimahullah, ainsi, celui qui commet l'ostentation, celui qui tombe dans l'ostentation, il n'a pas concrétisé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Iyaka na'bud. Lorsque tu récites Surat al-Fatiha, tu dis Iyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons, ô Allah. Donc celui qui tombe dans l'ostentation, il n'a pas concrétisé cette parole car il a voué une part de son adoration à qui? À autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'orgueilleux, celui qui est tombé dans la vanité, il n'a pas concrétisé la parole Wa Iyaka nasta'in. Et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Pourquoi il n'a pas concrétisé cette parole? Car il s'enorgueillit de ses actes. Il s'enorgueillit de ses œuvres. C'est comme si ses œuvres, il ne les avait accomplies que de par sa force. Il n'est pas conscient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a facilité et lui a permis d'accomplir cette œuvre. Donc ensuite, Cheikh al-Islam, il dit, rahimahullah, ainsi quiconque concrétise la parole, Iyaka na'bud. Celui qui concrétise cette parole et voue exclusivement son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, il se délivre de l'ostentation. Et quiconque concrétise sa parole, wa iyyaka nasta'in, c'est de toi seul dont nous implorons l'aide, alors il se délivre de la vanité, car il va être conscient qu'il n'accomplit cette œuvre que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième question que l'on va voir aujourd'hui est quelles sont les preuves du Coran et de la Sunna de l'interdiction de l'ostentation. Et les preuves dans le Coran et la Sunna, elles sont très nombreuses. On va se contenter ici d'en mentionner quelques-unes. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 142 de Surat An-Nisa, « Inna al-munafiqina yukhadi'un Allah, wa huwa khadi'uhum, wa idha qamu ila s-salah, qamu kusala, yura'un an-nas, wa la yathkurun Allah illa qalila. » Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, méditez sur cette parole, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. Et ils n'invoquent Allah que très peu. C'est-à-dire qu'ils ne prient que pour se faire voir des gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, dans Surat al-Ma'un, ces versets que vous connaissez certainement tous, « فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ » Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant, en retardant leur prière, et qui sont pleins d'ostentation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, dans le verset 264 de Surat al-Baqarah, « Ya ayyuha alladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu ma lahu ri'a'a an-nas, wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. » Ô vous qui croyez, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Donc ces versets sont très clairs pour nous indiquer que l'ostentation, elle fait partie des caractéristiques des hypocrites et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Quant aux preuves de la sunnah, elles sont très nombreuses également, et on va mentionner ici quelques hadiths, incha'Allah ta'ala. Parmi ces hadiths, il y a celui que rapporte l'imam muslim, rahimahullah, d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, c'est-à-dire le hadith est un hadith qudsi. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre en me donnant un associé dans celle-ci, je délaisse alors lui et son association. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullahu ta'ala a dit dans l'explication de ce hadith, ce qui est visé, c'est que l'œuvre de celui qui commet de l'ostentation est vaine. Il n'a aucune récompense pour celle-ci et il est dans le péché pour cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala le délaisse, lui et son association, c'est-à-dire qu'il rejette son œuvre. D'après Mahmoud ibn al-Abid, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme on l'a mentionné en début d'assise, « La chose que je crains le plus pour vous est l'association mineure. » Ils dirent alors, « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'association mineure ?» Il dit, « C'est l'ostentation. » Et Allah dira le jour durant lequel les serviteurs seront rétribués pour leurs œuvres, allez vers ceux pour qui vous commettiez de l'ostentation avec vos œuvres dans le bas monde et regardez si vous trouvez auprès d'eux une rétribution. Ce hadith est authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Allez vers ceux pour qui vous commettiez de l'ostentation, ceux de qui vous recherchiez les éloges et les compliments dans ce bas monde et regardez si vous trouvez auprès d'eux une rétribution. Ceci est donc une menace sévère contre le fait d'accomplir des œuvres par ostentation. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, dans un long hadith au sujet de certains événements qui se produiront au jour de la résurrection. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans celui-ci, « Allah découvrira alors sa jambe, et tout croyant se prosternera pour lui. Resteront debout ceux qui se prosternaient pour Allah par ostentation. À chaque fois qu'ils essayeront de se prosterner, leur dos redeviendra droit. » Demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte également le hadith bien connu des trois premières personnes qui seront jugées au jour de la résurrection. Parmi elles, un homme qui a appris la science, l'a enseigné et qui a appris le Coran. On l'amènera alors, on lui rappellera les bienfaits dont il a été comblé et il les reconnaîtra. On l'interrogera ensuite, « Et qu'en as-tu fait ?» Il dira, « J'ai appris la science, je l'ai enseigné. » Et j'ai lu le Coran pour toi, Wallah. On lui dira alors tu mens, mais tu as appris la science pour qu'on dise de toi que tu es un savant. Et tu as lu le Coran pour que l'on dise de toi que tu es un lecteur. Et ceci a certes été dit. On ordonnera alors de le prendre, et il sera traîné sur le visage jusqu'à être jeté en enfer. Il en sera de même, et il en sera de même pour le riche qui faisait des aumônes, afin que l'on dise qu'il était généreux, et le combattant qui combattait, afin que l'on dise qu'il est courageux. On voit donc à travers ce hadith que leurs œuvres étaient en apparence des œuvres pieuses, mais étant donné que leurs intentions étaient corrompues, et qu'ils les ont accomplies par ostentation, alors ces œuvres furent la cause pour laquelle ils seront jetés en enfer. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. La troisième question que l'on va voir aujourd'hui est: quelles sont les œuvres touchées par l'ostentation? Et sous quelle forme se manifeste l'ostentation? La pire des choses qui peut être touchée par l'ostentation est la foi. Et telle est la situation des hypocrites. Ceux qui font semblant d'avoir la foi, qui prétendent être musulmans, mais qui cachent au fond de leur cœur la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés au sujet des hypocrites qu'ils seront au plus bas fond du feu. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 145 de surat al-Nisa: Inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Donc ceci est la plus grave forme d'ostentation, de faire semblant d'être croyant, de faire semblant d'être musulman et de cacher au fond de soi la mécréance. Ceci est suivi par quoi? Par l'ostentation au sujet des adorations obligatoires. Comme par exemple, certaines personnes qui s'habituent à délaisser la prière obligatoire, à délaisser le jeûne obligatoire, lorsqu'elles sont seules. Mais lorsqu'elles sont en public, lorsqu'elles sont accompagnées de personnes qui sont assidues à ces œuvres, alors par peur d'être blâmées, elles accomplissent ces œuvres. Il n'y a pas de doute que ceci est un péché gravissime auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vient ensuite ceux qui font de l'ostentation au sujet des œuvres surérogatoires, comme ceux qui vont les accomplir devant les gens par crainte d'être méprisés, et qui vont ensuite les délaisser une fois seuls. Car lorsqu'ils sont seuls, ils se laissent dominés par la paresse et n'accomplissent pas ces œuvres surérogatoires, car en réalité, ils ne sont pas animés par le désir d'en obtenir la récompense. Ils ne les accomplissent donc que devant les gens. Enfin, ils sont suivis par ceux qui font de l'ostentation au sujet de la manière d'accomplir l'adoration, comme ceux qui vont prolonger leur adoration, prolonger leur prière lorsqu'ils sont devant les gens, la perfectionner d'une manière de laquelle ils ne la perfectionnent pas lorsqu'ils sont seuls. Ils vont manifester de l'humilité devant les gens, mais une fois seuls, ils vont se contenter d'accomplir le minimum obligatoire. Et tout ceci peut se manifester sous différentes formes, comme par exemple le fait de se montrer le teint pâle et fatigué, afin de laisser penser qu'on a fait de longs efforts la nuit dans l'adoration. Ou alors, le fait qu'une personne en public remue ses lèvres pour faire du dhikr, alors qu'elle ne le fait pas lorsqu'elle est seule. Ou le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal publiquement. Ou de montrer de la colère ou de la tristesse quand un péché est commis devant les gens. Ou alors, de parler de ses rencontres avec les savants, avec les gens de science. Tout cela dans quel but? Dans le but de chercher les éloges des gens. Si l'objectif de la personne est de chercher les éloges des gens et d'obtenir un rang auprès d'eux, alors ceci entre dans l'ostentation. Et cela peut aussi se manifester par le fait de prolonger la station debout, comme on a dit, prolonger l'inclinaison, la prosternation durant la prière, ou alors en faisant des aumônes devant les gens pour que les gens disent qu'on est généreux. Quoi qu'il en soit, les formes d'ostentation, elles sont en réalité très nombreuses. On ne peut pas toutes les dénombrer, car elles ne sont pas limitées. Et tout ce qu'on a mentionné, ce ne sont que des exemples, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans les paroles et les actes. La quatrième question est: quel est le jugement de l'ostentation? On a vu que l'ostentation est interdite. En effet, c'est une forme d'association, de shirk. Et la base est que l'ostentation est de l'association mineure, comme nous l'avons vu dans les hadiths. Et ce qui est visé par cette ostentation, c'est que le musulman accomplisse une adoration, recherchant par celle-ci le visage d'Allah. Cependant, il va parfois l'embellir ou la perfectionner par ostentation, comme en prolongeant la prière, en élevant la voix pour se faire écouter, et ce afin que les gens fassent ses éloges. Ceci est de l'ostentation qui relève du polythéisme mineur. Toutefois, dans certains cas, l'ostentation, elle peut être de l'association majeure, du shirk akbar. Et c'est le cas lorsqu'elle a lieu dans la majorité des œuvres. Et c'est ce que l'on comprend de la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala lorsqu'il a dit: l'association mineure telle que l'ostentation minime. Il a donc donné pour exemple de l'association mineure l'ostentation minime. Ceci prouve que si l'ostentation a lieu de manière excessive dans l'ensemble des œuvres, alors ceci est de l'association majeure. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et le deuxième type d'ostentation qui est de l'association majeure, c'est lorsqu'elle a lieu à la base des œuvres. C'est-à-dire que la personne n'accomplit pas du tout l'œuvre si ce n'est par ostentation. S'il n'y avait pas l'ostentation et le fait de se montrer, il n'aurait pas prié, il n'aurait pas jeûné, il n'aurait pas lu le Coran, il n'aurait pas donné d'aumône et ainsi de suite. Mais il ne fait cela que pour se montrer devant les gens. Celui-ci a donc commis de l'association majeure et telle est la situation des hypocrites, qui cachent au fond de leur cœur la mécréance, mais qui ne prient, ne jeûnent, ne font des aumônes que pour se faire passer pour des musulmans et vivre parmi eux en paix ou pour d'autres objectifs encore. Et ce qui nous permet de distinguer entre l'ostentation, qui correspond à l'hypocrisie majeure, et celle qui correspond à l'association mineure, c'est l'intention. L'intention de la personne. Elle permet de différencier entre ce qui est recherché par l'œuvre. Si ce qui motive l'œuvre est le visage d'Allah, la demeure de l'au-delà, et que la personne se préserve de l'ostentation dans son acte, et qu'il se conforme à la législation, alors ceci est l'œuvre qui est pieuse et qui est acceptée. Mais si ce qui motive l'œuvre est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est de l'hypocrisie majeure. C'est-à-dire que la personne, elle ne prie pas, mais elle prie seulement devant les gens pour se montrer. Elle ne donne pas d'aumône, mais elle donne des aumônes seulement devant les gens pour se montrer. Elle ne jeûne pas, mais elle jeûne seulement lorsqu'elle est par exemple auprès de sa famille pour faire croire qu'elle jeûne comme eux. Telle est la situation de l'hypocrite, d'une hypocrisie majeure, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Mais si ce qui motive l'œuvre de la personne est le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà, que la personne espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'elle est touchée par l'ostentation dans son œuvre, comme par le fait de l'embellir ou de la perfectionner, alors ceci est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé association mineure. Celui-ci ne sort pas de l'islam, mais il perd de la récompense de son œuvre selon le degré de son ostentation. Et il est possible que celle-ci prenne le dessus sur l'œuvre et qu'elle l'annule complètement. Donc la cinquième question que l'on va voir ici, c'est quel est le jugement de l'adoration touchée par l'ostentation, l'adoration du croyant qui est touchée par l'ostentation. On a vu que l'adoration qui est accomplie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est rejetée, même si elle est conforme à la sunnah. Et que l'adoration qui s'oppose à la sunnah, elle est rejetée, même si la personne est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, la question qui se pose est, qu'en est-il de l'adoration qui est conforme à la sunnah et qui est accomplie pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps pour autre que lui, comme pour la recherche des compliments des gens. C'est-à-dire que l'intention n'est pas entièrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle n'est pas entièrement pour autre que lui. Mais elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps la personne cherche à recevoir les compliments des gens. Donc dans cette situation, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Donc retenez bien ces cas et faites bien la différence entre eux. Essayez de les noter afin que ceci soit clair et ne soit pas confus pour vous, inshallah wa ta'ala. Le premier cas, c'est lorsque les motivations sont égales. C'est-à-dire que la personne est autant motivée par la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala que par la recherche de l'éloge des gens. Donc les preuves authentiques indiquent que cette œuvre est vaine et annulée. Comme on l'a vu dans le hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre en me donnant un associé dans celle-ci, je le délaisse alors lui et son association. » Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Et An-Nasa'i rahimahullah rapporte d'après Abu Umama al-Bahili, radiyallahu ta'ala anhu, qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Vois-tu un homme qui combat, recherchant la récompense et les éloges ?» Il recherche la récompense, mais il recherche aussi les éloges. « Qu'obtient-il ? » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit « Il n'obtient rien. » L'homme réitéra sa demande à 3 reprises. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réitéra sa même réponse à chaque fois, puis il dit « Il n'obtient rien. Certes, Allah n'accepte des œuvres que celles qui lui sont vouées exclusivement et par lesquelles son visage est recherché. » Donc ce hadith, c'est une des preuves les plus fortes pour dire qu'il n'y a pas de récompense dans une œuvre, sauf si elle est entièrement prémunie de l'ostentation et vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc le premier cas. Le deuxième cas, c'est celui de l'œuvre dont la première motivation est la recherche du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la personne est motivée par la recherche de la récompense. Il se lève donc par exemple pour prier, ou alors il fait une aumône, ou il lit le Coran. Mais au cours de cette œuvre, l'ostentation vient à lui. Alors dans ce cas, soit il va repousser cette suggestion, c'est-à-dire qu'il va chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace de l'ostentation dans son cœur. Alors dans ce cas-là, ceci ne lui nuit point, sans aucune divergence. C'est-à-dire si par exemple lorsque tu pries, et que le diable vient à toi et te dit « les gens te regardent, ils vont te faire des compliments » ou d'autres choses qui peuvent être insufflées ou suggérées par le diable lorsque tu accomplis ton adoration. Si tu repousses cela, tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis « A'udhu billahi mina shaitan ar-rajim » et que tu n'en tiens pas compte, alors dans ce cas-là, si tu purifies ton cœur de cela, ceci ne te nuit point et ce sans aucune divergence. C'est-à-dire que ces suggestions-là, elles n'ont aucune influence sur l'acceptation de ton œuvre, inshallah ta'ala. Toutefois, si tu te laisses aller à cette suggestion, c'est-à-dire que tu l'acceptes, et que celle-ci reste en toi, et que tu te réjouis de savoir que la personne va te complimenter et te voit en train de faire cette adoration, alors dans ce cas-là, est-ce que cette adoration est acceptée ou non? La réponse est que cela dépend du type d'adoration. Car l'adoration est de deux sortes. Il y a des adorations dont la validité de la fin est liée à la validité du début, à l'exemple de la prière ou du jeûne. Il y en a d'autres dont la validité de la fin n'est pas liée à son début, comme par exemple la lecture du Coran ou l'aumône. Donc si l'adoration que tu es en train d'accomplir est par exemple une prière, et que tu as commencé cette prière ne recherchant que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'ostentation te vient, par exemple, dans la seconde unité de prière. Donc comme on a dit, si tu repousses cette suggestion, ceci ne te nuit point. Mais si tu la suis et que tu l'acceptes, alors ton œuvre est entièrement vaine, car son début est lié à sa fin. Il n'est pas possible que l'on dise que la première unité est acceptée et la deuxième n'est pas acceptée. Mais cette œuvre est complètement rejetée. Donc la personne doit faire des efforts lorsque cette suggestion lui vient, afin de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas s'y adonner. Et la deuxième situation, on a dit, c'est que cette adoration, la validité de sa fin ne soit pas liée à son début. Comme la lecture du Coran, l'aumône, la propagation de la science, l'irtikaf ou autre. Par exemple, une personne accomplit l'irtikaf durant les 10 derniers jours de Ramadan et dans une mosquée en train d'accomplir l'irtikaf. Il accomplit 4 nuits d'irtikaf avec comme seule motivation la recherche de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis la 5e nuit, il est touché par l'ostentation et ne repousse pas cela. Alors dans ce cas-là, ce qui était pour Allah subhanahu wa ta'ala est accepté, c'est-à-dire les premiers jours. Et ce qui était de l'ostentation et de la recherche des compliments des gens, alors ceci est rejeté. Donc on a vu les deux cas. Le premier cas, lorsque les motivations sont égales, et le deuxième cas, lorsque l'œuvre, sa première motivation est la recherche du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, la recherche de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'ostentation vient au cours de l'œuvre. Le troisième cas, c'est le contraire du deuxième. C'est-à-dire que la motivation première est l'ostentation, mais la personne se corrige au cours de son œuvre, elle corrige son intention et accomplit l'œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas, on applique le même détail que l'on a mentionné pour le deuxième cas. C'est-à-dire que si l'adoration accomplie est une adoration dont la validité du début est liée à celle de la fin, alors son œuvre est vaine. Par exemple, une personne est à la mosquée, voit que les gens les regardent, elle se dit « je vais me lever et prier, une prière surrogatoire, afin qu'ils me voient prier, et afin d'obtenir les éloges et les compliments des gens. » Il prononce le takbir, commence à prier, et puis se rend compte que ceci est une mauvaise intention. Alors il corrige son intention. Malgré cela, son œuvre est vaine. Pourquoi? Car il l'a commencé pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si l'adoration accomplie est une adoration dont la validité du début n'est pas liée à celle de la fin, alors ce qui est accompli pour Allah est accepté. Par exemple, un homme est dans la mosquée toujours, il voit que les gens le regardent, alors il décide de prendre le mushaf et se met à lire, afin que les gens le voit en train de lire et qu'il fasse ses éloges. Il commence à lire, puis se rend compte que ceci n'est pas une bonne intention. Alors il purifie son cœur de cela et vaut sa lecture exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on dira que les premières pages qu'il a lues, elles sont vaines et elles ne sont pas acceptées. Et ce qu'il a lu par la suite est accepté d'Allah, inshallah ta'ala. Et il en est de même pour l'aumône. Par exemple, une personne passe devant un pauvre ou un nécessiteux, il est avec des gens Et pour se montrer, il sort de sa poche par exemple 10 euros et les donne en aumône. Puis il se rend compte que ceci est de l'ostentation. Alors il souhaite se corriger, il prend encore 10 euros et les redonne en aumône, mais cette fois exclusivement par recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce cas, on dira que la première aumône, elle est rejetée et la seconde, elle est acceptée, inshallah ta'ala. Le quatrième cas, on a vu donc trois cas. Le premier cas, les intentions sont égales. Le deuxième cas, on commence pour Allah, puis l'ostentation est suggérée. Le troisième cas, la personne commence par ostentation, puis se corrige. Le quatrième cas, c'est celui de l'œuvre accomplie entièrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, du début jusqu'à sa fin. Mais l'ostentation lui est suggérée après celle-ci. Est-ce que cela a de l'impact sur la validité de l'adoration? Les savants ont divergé à ce sujet. Et ce qui est apparent est que cela n'a pas d'impact sur la validité et l'acceptation de l'œuvre si ce n'est pas la personne qui informe les gens de cela. C'est-à-dire ce n'est pas lui qui les a informés. Et ce pour deux raisons. La première est que l'adoration a été terminée de manière valide. Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, a dit « Et la présence de l'ostentation après l'accomplissement de l'adoration ne l'annule pas, car elle a été accomplie avec sincérité. Et ce qui lui vient comme suggestion après cela ne change rien. » Ne change rien à la validité de l'œuvre. Surtout s'il n'a pas fait en sorte de montrer son acte ou d'en parler. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a parlé de son acte ou de son œuvre, mais les gens en ont eu connaissance. Cependant, s'il en parle, si c'est lui qui en parle, après l'avoir accompli ou qu'il la montre, alors cela est à craindre pour lui. C'est-à-dire qu'il est à craindre pour lui dans ce cas, si c'est lui qui est la cause, c'est lui qui a fait savoir aux gens, qui a parlé de son œuvre, il est à craindre pour lui que l'œuvre soit annulée. Ensuite, il dit, rahimahullah, et en général, celui-ci, celui qui va informer les gens de ses œuvres, avait dans son cœur au moment de l'acte une forme d'ostentation. Fin de citation de la parole d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala. La deuxième raison pour laquelle l'ostentation, si elle est suggérée après l'acte, cela n'a pas d'impact sur la validité de l'adoration, si ce n'est pas toi qui informes les gens de ton œuvre, c'est que l'ostentation n'a lieu qu'en même temps que l'œuvre. Comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, l'ostentation n'a lieu qu'en même temps que l'œuvre. Elle n'a pas lieu après l'œuvre. Donc la sixième question que l'on va voir maintenant, c'est quel est le jugement de celui qui a accompli une œuvre secrètement, puis Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que les gens en prennent connaissance. Et cela le réjouit et le rend heureux. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a informé les gens, mais les gens en ont eu connaissance. Il a accompli son œuvre secrètement, il a prié la nuit. Et par exemple, quelqu'un chez lui en informe les gens. Informe qu'il a prié cette nuit-là, ou informe qu'il a terminé la mémorisation du Coran ou autre. Et lorsque les gens le savent, alors cela le réjouit et le rend heureux. Quel est le jugement de cela? Sachant que ce n'est pas lui qui a informé les gens. Le cheikh, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit, il ne fait pas partie de l'ostentation que l'homme se réjouisse que les gens aient pris connaissance de son adoration. Car ceci n'a lieu qu'après l'achèvement de l'adoration, après qu'elle soit terminée. Et il ne fait pas partie de l'ostentation que l'homme se réjouisse de l'accomplissement de l'obéissance. Car ceci est une preuve de sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque est réjoui par sa bonne action et affligé par sa mauvaise action, il est triste lorsqu'il fait un péché, alors celui-ci est le croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à ce sujet et il a dit, ceci est la bonne annonce anticipée pour le croyant. Donc lorsque une personne accomplit des bonnes œuvres, il va de soi qu'elle se réjouit de cela et qu'elle est attristée lorsqu'elle fait des mauvaises actions. Et si les gens ont connaissance et que ce n'est pas toi qui les as informés, alors il n'y a pas de mal en cela, inshallah ta'ala. Ceci est donc un des avis des gens de science en réponse à cette question. Cependant, comme on a dit, il faut savoir qu'ils ont divergé sur ce sujet. Le premier avis est celui que l'on vient de mentionner, c'est-à-dire que cela n'est pas nuisible et n'est pas de l'ostentation. Et d'autres savants ont dit que cela est de l'ostentation si la personne se réjouit du fait d'avoir obtenu un rang dans le cœur des gens, c'est-à-dire que les gens aient de l'estime pour lui, qu'il fasse ses éloges et l'honore, même s'ils n'ont pris connaissance de son œuvre qu'après son achèvement. On voit donc qu'en réalité, ceci revient à l'intention de la personne. Qu'est-ce qui t'a réjoui? Est-ce que tu te réjouis du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait caché tes défauts et montré tes bonnes actions? Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal en cela, inshallah ta'ala. Ou alors, tu te réjouis du fait que les gens aient pris connaissance de ton acte et que maintenant ils vont te respecter, avoir de l'estime pour toi. Si telle est la situation, alors ceci est blâmable. Mais si tu te réjouis du fait que les gens vont alors prendre exemple sur toi, en accomplissant aussi cette adoration, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ton œuvre une cause d'encouragement au bien, alors il n'y a pas de mal en cela. Par exemple, tu as fait une aumône secrètement à une personne, un nécessiteux. Tu l'as fait secrètement. Puis des gens en ont connaissance. Et de ce fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi donner des aumônes à ce nécessiteux. Alors tu vas te réjouir du fait qu'ils aient pris connaissance de ton acte, pourquoi? Car cela les a encouragés à eux aussi faire le bien. Donc tu te réjouis en réalité de quoi? De la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Car ainsi, tes bonnes œuvres, elles vont être multipliées. Car celui qui indique un bien, il obtient la même récompense que celui qui l'accomplit. Mais si la cause de ta réjouissance, c'est la place que tu vas occuper dans le cœur des gens, et des éloges qu'ils vont te faire, alors il n'y a pas de doute que ceci est blâmable. Et si tu te réjouis du fait que les gens connaissent de toi le bien et les adorations que tu accomplis, et que par conséquent ils t'honorent, alors ceci rentre en réalité dans l'ostentation. Donc on voit que tout ceci revient en réalité à l'intention de la personne. C'est pour cela qu'il convient à chacun d'entre nous de purifier son cœur et de purifier ses intentions. La septième question concerne le jugement de celui qui accomplit une œuvre publiquement afin que l'on prenne exemple sur lui. Dans le point précédent, on a mentionné celui qui accomplit une œuvre secrètement, puis les gens en prennent connaissance. Ici, on va voir le contraire. C'est quelqu'un qui accomplit une œuvre publiquement volontairement. Et son objectif, c'est quoi? C'est que les gens prennent exemple sur lui. Alors ceci est une chose louable. Il est rapporté de Omar, de Uthman, de Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que d'un groupe de salaf, rahimahumullahu ta'ala, qu'ils accomplissaient la prière de nuit, ou ça, dans leur mosquée. Et ce, afin que leur entourage ait connaissance de leurs œuvres, et qu'ils les prennent pour modèle en cela. On voit donc que cela dépend de l'intention, mais aussi du rang de la personne. C'est-à-dire que si celui qui accomplit cela est une personne qui est prise pour modèle, et que cette personne ne se soucie pas que son œuvre soit exposée au cachet, et ce car elle a purifié son cœur de toute forme d'ostentation et qu'elle est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a dans l'exposition de son œuvre ce qui va encourager les gens à accomplir le bien et en faire de même. Alors dans ce cas-là, il sera meilleur pour cette personne d'accomplir son œuvre publiquement car sa récompense sera plus grande, étant donné qu'elle va être suivie dans ce bien. Et celui qui indique un bien, il obtient la même récompense que celui qui le fait. Mais si c'est une personne qui n'est pas prise pour modèle et qui ne se sent pas à l'abri que sa passion prenne le dessus et vienne corrompre son œuvre, alors dans ce cas-là, il est plus prudent d'accomplir l'œuvre secrètement. On parle ici des œuvres surrogatoires qui peuvent être accomplies secrètement. Car il y a des œuvres qui sont impérativement accomplies publiquement, comme la prière en commun pour les hommes et ainsi de suite. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a clarifié comment faire la différence entre le fait d'accomplir une œuvre publiquement d'une manière blâmable, qui est de l'ostentation, et celle qui est permise et ne nuit pas à la personne. Il a dit, rahimahullah ta'ala, selon le sens de sa parole, que si le fait d'accomplir l'œuvre publiquement te motive, ou alors renforce ta motivation, alors dans ce cas-là, ceci prouve la présence de l'ostentation. Mais si cela ne te motive pas, ne renforce pas ta motivation, mais que ton œuvre, si tu l'accomplis secrètement ou publiquement, cela en est de même. Tu ne l'embellis pas lorsque tu es devant les gens, mais tu l'accomplis de la même manière que si tu étais seul. Alors ceci n'est pas de l'ostentation. Et comme on a dit, cela peut être recommandé s'il y a un intérêt en cela. Comme par exemple si un nécessiteux se rend dans la mosquée et dans le besoin, il demande l'aumône. Alors tu te lèves devant les gens, car tu sais que tu vas être pris pour modèle, et tu lui donnes une aumône. Alors ceci n'est pas de l'ostentation. Pourquoi? Car tu as fait cela pour inciter les gens à donner des aumônes également. Et il n'y a pas de mal en cela, inshallah ta'ala. Enfin, la dernière question que l'on va voir aujourd'hui, et quel est le jugement du délaissement d'une adoration lorsque les gens t'observent par peur de l'ostentation? C'est une question qui revient souvent. Est-ce que j'ai le droit de délaisser une œuvre par peur de l'ostentation? Je suis à la mosquée, j'ai envie de prier, mais je ne vais pas prier car j'ai peur de l'ostentation. Alors, le comité permanent de la délivrance des fatwas, l'Ajnatud Da'ima d'Arabie Saoudite, a dit dans une de ses réponses, « Le moins que l'on puisse dire est que cela est détestable. » Et certains savants l'ont même considéré comme de l'ostentation. Car celui qui a la volonté d'accomplir une adoration, il a la volonté de faire une prière par exemple, et la délaisse par peur que les gens le voient, il a alors fait de l'ostentation, car il a délaissé son œuvre, pourquoi? Pour les gens. Et le délaissement de l'œuvre par peur de l'ostentation fait partie des pièges du diable. Car si l'homme fait cela, et que le diable en a connaissance, alors il se peut qu'il vienne à lui lors de chaque œuvre par des suggestions et des insufflations jusqu'à ce qu'il délaisse toute obéissance. Fin de citation de la parole du comité permanent de la délivrance des fatwas d'Arabie Saoudite. Vous voyez donc que ceci est très dangereux. En effet, si, lorsque tu es devant les gens, tu délaisses par exemple tes rawatib, ou tu vois un nécessiteux, tu ne donnes pas d'aumône parce que tu as peur que ceci soit de l'ostentation. Si tu fais cela, alors le diable, il va venir sans cesse à toi avec ses suggestions. Et au final, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas plus faire aucune œuvre. Car dès que tu vas vouloir donner une aumône, tu vas te dire peut-être que c'est de l'ostentation, donc je ne le fais pas. Tu vas vouloir prier à la mosquée, je ne prie pas car j'ai peur de faire de l'ostentation. Tu vas vouloir lire le Coran, je ne lis pas le Coran car j'ai peur de l'ostentation. Tu vas vouloir faire tes adhkars, je ne fais pas de adhkars, j'ai peur de l'ostentation. Tu vas vouloir rester à la mosquée après la prière, je ne reste pas, j'ai peur de faire de l'ostentation, et ainsi de suite. Le diable, il va te faire délaisser toutes les œuvres de bien. Mais ce qui t'incombe, c'est de continuer ton œuvre et de purifier ton intention et de lutter contre ces suggestions du diable. Et certains savants ont détaillé cette question en disant que l'œuvre est de deux sortes. Obligatoire ou surrogatoire. Si l'œuvre est une œuvre obligatoire, dans ce cas-là, il est interdit de la délaisser. Il est obligatoire pour toi de lutter contre ton âme jusqu'à ce que tu l'accomplisses. Tu ne vas pas délaisser une obligation par peur de l'ostentation. Le deuxième cas, c'est lorsque l'œuvre est surrogatoire. Dans ce cas-là également, tu dois lutter contre ton âme. Mais si tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à lutter contre ton âme, tu n'arrives pas à rejeter cette suggestion, et qu'il t'est possible d'accomplir cette œuvre secrètement, alors il n'y a pas de mal, Inch'Allah Ta'ala. Par exemple, tu as la mosquée après Salat al-Isha, après la prière de l'Isha, et tu veux accomplir ta ratiba. Mais l'ostentation t'est suggérée par le diable. Dans ce cas-là, il t'est possible de rentrer chez toi et d'accomplir cette prière. Alors il n'y a pas de mal à ce que tu la délaisses et que tu l'accomplisses secrètement. Donc lorsque l'ostentation est suggérée, avant le commencement d'une adoration, on doit repousser l'ostentation et accomplir l'adoration. Et si tu n'en es pas capable, et que l'ostentation s'accroche à ta poitrine, alors, si l'adoration est surrogatoire, et qu'il t'est possible de l'accomplir secrètement, il n'y a pas de mal à la délaisser. Mais si elle est obligatoire, alors il t'incombe de lutter contre ton âme, car il n'est pas permis de délaisser une obligation. Et il ne convient pas de délaisser une œuvre légiférée par peur de l'ostentation. Vous vous rappelez la parole d'Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala, qui est un salaf, un pieux prédécesseur. Si le diable vient à toi lorsque tu pries, et te dit que tu fais de l'ostentation, alors prolonge ta prière. Prolonge ta prière. Accomplis ta prière à la perfection. Repousse cette suggestion du diable et applique-toi dans ta prière et concentre-toi sur celle-ci. Et si tu fais cela, bi'inillahi ta'ala, que tu suis cette recommandation d'Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala, tu verras que le diable ne te suggérera plus l'ostentation. Car il saura qu'à chaque fois qu'il vient te suggérer l'ostentation, alors tu vas t'appliquer encore plus dans ton œuvre. Et tu vas l'accomplir d'une meilleure manière. Alors il va te délaisser, il ne va plus venir à toi avec ses suggestions. De la même manière, si tu vas pour faire une aumône et qu'il te suggère l'ostentation, tu allais par exemple pour donner 10 euros, rajoute encore une somme, rajoute encore 10 euros et donne 20 euros en aumône et lutte contre cette suggestion et fais cette œuvre sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne délaisse pas les œuvres par peur de l'ostentation. Car il se peut que ceci soit de l'ostentation. Donc on a dit que délaisser une œuvre par peur de l'ostentation, ce n'est pas dans tous les cas de l'ostentation. Ceci revient à l'intention. Et les gens de science ont mis en garde contre le fait de délaisser l'ostentation par ostentation. Et cela est encore pire que l'ostentation elle-même. C'est le cas d'une personne qui va sans cesse délaisser les œuvres surrogatoires publiquement, recherchant à ce que les gens disent de lui qu'il accomplit ses œuvres secrètement. Et il n'y a pas de doute que ceci est une des formes d'ostentation les plus graves. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Il reste encore quelques questions à voir au sujet de l'ostentation, et notamment les moyens de s'en préserver, et on verra cela dans l'assise de demain, incha'Allah ta'ala. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder la sincérité dans nos œuvres, et de nous préserver de l'ostentation. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم